Ce matin, nous avons pu considérer essentiellement le début du chapitre 12 de ce livre de l'Exode qui nous parle d'un peuple qui va être racheté pour l'Éternel. J'ai formé ce peuple pour moi-même, ils raconteront ma louange. Dieu veut habiter au milieu d'un peuple racheté pour sa louange. Ce peuple était là dans un pays d'esclavage, mais c'était le peuple de Dieu. C'était le peuple que Dieu s'était choisi. Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Voilà ce qui devait être dit au Pharaon. Et ce peuple adopté par l'Éternel était retenu par un Pharaon dur et cruel. Mais voici la dixième plaie qui va tomber sur ce pays d'Égypte afin que ce peuple soit définitivement délivré. Et cette plaie devait atteindre aussi bien Israël que les Égyptiens, tous solidairement coupables, tous passibles du jugement divin. Mais voilà, les maisons d'Israël ont été épargnées par la vertu du sang de l'agneau pascal versé, aspergé sur les poteaux et sur le linteau de la porte de chaque maison des fils d'Israël, afin que le destructeur n'entrât point, afin qu'il ne frappe pas dans ces maisons d'Israël, afin qu'il passe par-dessus. C'est la signification du mot Pâques, passer par-dessus. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous quand je frapperai le pays d'Égypte. Ainsi donc, ce peuple est mis à l'abri du jugement, non pas parce que simplement il était choisi de Dieu, non pas parce qu'il était un peuple à part, meilleur que les autres, pas du tout. Il était tout aussi coupable que les Égyptiens, nous le verrons tout à l'heure, mais c'est un peuple qui est maintenant placé à l'abri du sang versé de l'agneau de la Pâque. Et cela parle assez à nos cœurs de ce peuple actuel, le peuple de Dieu dont nous faisons partie, qui a été racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau. Nous avons insisté sur les caractères de l'agneau de la Pâque. Il devait être mâle, sans défaut, âgé d'un an. Pour le Seigneur, il y a quelque chose de plus glorieux qui devait être manifesté. Il était lui seul, sans défaut et sans tache, sans péché, pas de péché en lui. Et c'est pour cela qu'il a pu porter nos péchés en son corps sur le bois. C'est pour cela que le péché a été condamné dans sa chair. C'est pour ça qu'il a pu être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi donc, toutes les gloires morales de notre Seigneur ont brillé pendant la manifestation de sa présence dans ce monde au milieu des hommes, comme aussi l'agneau devait être mis en garde pendant 4 jours afin qu'il fût bien reconnu comme étant propre pour être sacrifié pour la Pâque. Il devait être sans défaut. Le Seigneur Jésus a manifesté toute la gloire de Dieu dans ce monde, dans une marche parfaite, dans un service parfait. Il a parfaitement accompli les œuvres de Dieu. Il était le seul qui put les accomplir parce qu'il était l'homme parfait, le vrai serviteur. Il était le serviteur parfait parce que il y avait en lui toute la puissance divine pour agir, pour accomplir ses œuvres de Dieu, mais aussi tout l'amour de Dieu dans son cœur, pour manifester cette grâce de Dieu au milieu des hommes. Tout en lui était perfection infinie en tant qu'homme, mais tout en lui manifestait les caractères divins, en particulier donc la sainteté, l'amour divin. Il y a la puissance divine. C'est donc à l'entrée des maisons que devait être répandu le sang par de l'hysope qui nous parle au verset 22 de cette plante très humble qui pousse dans les murs, qui nous parle ainsi de l'humilité qui convient lorsque nous avons affaire avec ce qui est saint, ce qui est sacré. Le sang répandu, c'est le sang précieux de Christ. Et chaque fois que nous abordons ainsi tout ce qui concerne la personne du Seigneur, son œuvre, son sacrifice, son sang versé, nous devons nous présenter avec l'humilité qui convient, reconnaissant que c'est pour nous qu'il a souffert, que nous étions ces misérables qu'il est venu sauver, et que tout est grâce pour nous, et que si nous pouvons parler de ces choses, c'est dans le sentiment d'une grâce infinie qui nous a atteints, plus qu'Israël encore, si nous pouvons parler ainsi, parce que nous étions sans droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Ce peuple était le descendant d'Abraham, à qui toutes les promesses avaient été accomplies pour lui, toutes promises pour lui et pour sa semence. Mais voilà que ces choses-là s'adressent maintenant à ceux qui n'étaient pas un peuple, mais qui sont maintenant le peuple de Dieu, à ceux qui n'avaient pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant ont obtenu miséricorde. Et nous comprenons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu nous trouver là où nous étions, loin, loin de Dieu, sans espérance. Et c'est pour cela que nous avons à nous approcher de tout ce qui typifie ainsi l'œuvre du Seigneur et toutes les gloires de sa personne avec la plus profonde humilité. Devait accompagner cette aspersion du sang, la consommation du sacrifice, il devait être mangé. C'est pour nous nous nourrir d'un Christ mort, de celui qui a souffert pour nous et qui est mort pour nous. Manger sa chair, boire son sang, nous y reviendrons une minute dans Jean 6 que nous avons considéré l'an passé. Il fallait donc manger un agneau rôti au feu, non pas cuit dans l'eau, non pas à demi-cuit, mais ayant passé par l'épreuve du feu, comme le Seigneur lui-même l'a subi dans toute son intensité, dans tout son être divin, mais profondément homme aussi. Il était là, celui qui ressentait parfaitement ces choses, qui ressentait profondément ses souffrances, l'épreuve du feu, du jugement de Dieu. La tête, le siège de l'esprit et de l'âme, avec tout ce qu'il avait manifesté dans la plénitude de la gloire divine, mais qui était là soumis à la souffrance. Il a livré son âme à la mort. Et puis les jambes, une marche parfaite, mais une marche de celui qui était l'agneau de Dieu, Jésus qui marchait, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et là, ses jambes, ses pieds ont été cloués. Et l'intérieur, toutes ses profondes affections pour son Dieu, tout son être tout entier sondé, éprouvé au creuset, et Dieu n'avait rien trouvé que perfection. Tout cela donc était manifesté dans l'offrande de Jésus-Christ. Et ce sacrifice devait être mangé avec des pains sans levain et des herbes amères qui nous parlent de la perfection de l'humanité de notre Seigneur, sans péché, et qui a été consommé par des souffrances, qui a goûté la mort dans toute son amertume. Et c'est ainsi aussi que nous devons, dans le moment de l'adoration, nous présenter devant notre Dieu dans ce sentiment de la sainteté qui sied à la table du Seigneur sur laquelle sont placés les signes de ses souffrances et de sa mort, et de tout ce que nous lui avons coûté, le prix qu'il a payé pour nous avoir pour lui. Nous avons été achetés à prix. Toutes ces souffrances rappelées ainsi dans ce mémorial nous demandent de nous approcher ainsi sur cette terre sainte avec des affections profondément renouvelées, continuellement renouvelées. Et le sentiment de la joie que nous pouvons éprouver, certes, dans ce grand salut de Dieu dont nous sommes les objets, mais aussi l'amertume des souffrances qui ont été sa part et que nous lui avons infligées. Les pains sans levain, ce sont des pains d'affliction. Nous pouvons peut-être dire un mot donc de ce passage de Jean 6 que nous avons évoqué, puisque notre frère, ce matin, a terminé l'entretien avec cette évocation de la mort de Christ, de la manière de se nourrir de cette mort de Christ, et des conséquences qui en résultent. 5 points très précis que nous avons soulevés l'an passé en Jean 6, verset 51. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Or, le pain aussi que moi je donnerai, c'est ma chair, laquelle moi je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus donc leur dit, en vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Nous voyons donc là clairement que la vie éternelle est communiquée par le fait de se nourrir d'un Christ mort, d'avoir ainsi apprécié pour nous ce qu'est l'agneau de la Pâque et de savoir ce qui s'est passé sur la croix pour nous personnellement, comment nos péchés ont été entièrement expiés et comment nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, manger la chair du Fils de l'homme et boire son sang. C'est ainsi que nous pouvons acquérir la vie éternelle. Et puis, deuxième point, verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est en vérité un aliment et mon sang est en vérité un breuvage. » Nous voyons là que c'est une action continue, manger sa chair et boire son sang, le temps qui est dans l'original nous montre que c'est une action continuelle, sa chair est continuellement un aliment, son sang continuellement un privage, de manière à ce que la vie éternelle soit manifestée dans celui qui mange, dans celui qui se nourrit d'un Christ mort. C'est quelque chose de continu. Et puis ensuite, nous avons au verset 56, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Là, nous avons la communion qui s'exprime dans ce fait de se nourrir d'un Christ mort d'une façon continue, une communion qui peut être entretenue avec sa personne glorieuse actuellement. Nous avons ensuite, quatrième point, « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis à cause du Père, » de même, celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Nous voyons que la raison de vivre du Seigneur ici-bas, sa mission, c'était de représenter le Père qu'il avait envoyé, c'était d'accomplir ses œuvres, c'était de parler de ce qui était dans le ciel, c'était sa vie. Je vis à cause du Père. Eh bien, notre vie aussi, c'est cela. C'est notre raison de vivre, c'est Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ, disait l'apôtre. Celui-là aussi vivra à cause de moi, en raison de moi, c'est-à-dire notre raison de vivre, c'est Christ, et c'est une raison de le vivre et de le servir, parce que nous sommes nourris de lui. Celui qui me mangera, celui-là aussi vivra à cause de moi. Et nous ne pouvons effectivement le représenter sur la terre, vivre pour lui, nous consacrer tout entier à lui, que dans la mesure où nous nourrissons de lui continuellement. Et le dernier point, le cinquième, c'est ici le pain, verset 58, qui est descendu du ciel, non pas comme les pères mangèrent et moururent, celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Et alors là, c'est le futur, c'est la vie éternelle, c'est ce qui sera consommé dans l'éternité. Nous aurons ainsi une nourriture continue, nous aurons toujours devant les yeux un agneau immolé, nous aurons une louange continuellement alimentée, une vie éternelle entretenue et une louange alimentée par un agneau immolé devant nos yeux, une nourriture perpétuelle pour le croyant dans les âges sans fin. Nous voyons donc les cinq choses qui se succèdent ainsi dans l'enseignement du Seigneur au sujet de cette nourriture d'un Christ mort, d'un Christ sacrifié. C'est donc, premièrement, avoir la vie éternelle. C'est ensuite la manifester. C'est ensuite jouir de sa communion précieuse. C'est ensuite être tout entier à son service, notre raison de vivre. Et c'est enfin cette vie éternelle qui, dans l'avenir, se perpétuera dans la contemplation d'un agneau de Dieu immolé mais glorifié.
Nous étions arrêtés à la fin de notre étude sur ce verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Nous voyons cette analogie avec ce que nous lisons maintenant dans Exode 12. Nous avons remarqué ce matin, verset 7, « Ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte pour maisons dans lesquelles ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là. » Nous avons au verset 22 de ce chapitre 12, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux. Ce matin, on a fait remarquer, pour pouvoir se nourrir de Christ, pour pouvoir vivre de lui, pour lui, à la gloire de Dieu, il faut d'abord que nous nous soyons appropriés son œuvre expiatoire. Et nous avons là deux verbes, les mêmes verbes, au verset 7. Ils prendront de son sang. Et puis, au verset 22, vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Au verset 22, nous avons donc un détail de plus qu'au verset 7. Au verset 7, il est parlé, dit qu'il faudra égorger l'agneau. Et puis au verset 22, le sang sera recueilli dans le bassin. Ce sang est recueilli. C'est la provision. Ce sang précieux de Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Voilà la provision de Dieu. Mais, comme ce matin on le faisait remarquer, combien ça est important pour chacun d'entre nous, il faut que nous prenions ce sang. Ils prendront, lisons-nous verset 7, de son sang et le mettront sur les deux poteaux sur le linteau. Au verset 22, vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux. Il faut qu'en effet, ce matin, l'Esprit de Dieu a insisté beaucoup sur ce pensée-là, que nous nous approprions chacun pour soi l'œuvre de Christ, l'œuvre expiatoire de Christ. Le sang pouvait rester dans le bassin, si le sang était resté dans le bassin, eh bien, l'ange aurait passé et aurait exercé son jugement sur la maison d'Israël. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort. Il faut que nous approprions cela. L'apôtre Paul pourrait dire, le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Et puis au point de vue collectif, le Christ a aimé l'Assemblée. Combien cela est important? Que de fois on entend dire, oh oui, je sais que Jésus est mort. Oui, on pense à son sacrifice. Mais on ne se l'approprie pas. Puissions-nous nous approprier cette œuvre expiatoire de Christ. Et puis alors, une fois que l'Esprit de Dieu a fait son œuvre en nous, que nous savons que nous avons la vie éternelle, eh bien nous pouvons en effet, ce matin on a dit quelques mots à ce sujet, ils le mangeront rôti au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Alors là, nous avons encore une plénitude. D'abord, l'œuvre de Christ, qui est là comme cette ressource parfaitement suffisante qui expie le péché. Et cette œuvre que nous nous approprions. Puis ensuite, nous sommes appelés à manger. Et manger, nous nourrir de personnes de Christ, mais pas de n'importe quel Christ. Nous lisons ici, dans ce verset 8, ils la mangeront rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils la mangeront rôti au feu, non pas qu'il soit à demi-cuit ou cuit dans l'eau, mais rôti au feu. Ce matin, on a pensé à cela. Cela a été dit, mais au début de cette deuxième réunion, combien cela nous semble important. S'approprier l'œuvre de Christ. Réalisant que nous sommes des pécheurs perdus. Que seule l'œuvre de Christ nous ouvre le ciel. Et puis, deuxièmement, nous nourrir de Christ pour notre vie de tous les jours. Mais quel Christ? Pas un Christ à notre convenance, comme un frère le disait, pas un Christ confortable que nous adaptons à nos pensées humaines. Non, un Christ tel que Dieu nous l'a donné. Un Christ rôti au feu. L'action de la flamme, ce Christ qui a passé par la colère de Dieu, sous la colère de Dieu, oh, l'action du feu, l'action de la flamme. Nous disons, pas qu'il était cuit dans l'eau, ou à demi-cuit. Nous nous contenterions d'un christianisme confortable, un christianisme à notre goût, Nous savons bien que Jésus est mort pour nous sur la croix, mais Satan nous dit, tu peux bien faire ceci, faire cela, et oubliant ce que Christ est pour Dieu. Christ a passé par le jugement de Dieu, l'action du feu, l'action du rôti au feu. Et justement, dans Jean 6, nous lisons au verset 62, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. La chair ne profite de rien. Nous n'avons pas à mêler avec ce que Jésus nous donne, avec l'œuvre de Christ sur la croix, Christ qui a passé par le jugement de Dieu, quoi que ce soit de nos pensées humaines. Christ a supporté sur la croix tout le jugement de Dieu contre le péché. Tout ce qui est de l'homme a été entièrement mis de côté. L'agneau rôti au feu. Et puis, la conséquence. Eh bien, c'est Jean 6, la chair ne profite de rien. Combien il est précieux, bien-aimé, de voir cette continuité de la pensée de Dieu. L'an dernier, par la grâce de Dieu, réunis comme nous le sommes maintenant, ces pensées ont été devant nous. Notre frère nous a développé toutes ces vérités dans les versets précédents. Quelle est la conclusion? La chair ne profite de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que moi je vous dis, les dites, sont esprit et sont vie. Christ nous apporte, par son œuvre sur la croix, une vie nouvelle. Les paroles que je vous dis sont esprit et sont vie. Tout ce qui est de l'homme est mis de côté. Combien serait important. Et nous avons à l'apprendre tous les jours, Dieu nous l'a dit encore aujourd'hui. Puissions-nous suivre, penser par la puissance de l'esprit à un Seigneur Jésus tel que il a été sur la croix. L'apôtre Paul pouvait dire, nous prêchons Christ. Pas n'importe quel Christ. Pas un Christ à la pensée des hommes, un Christ crucifié, où tout ce qui est de l'homme est mis de côté, à tel point qu'aux Philippiens, quand ils parlent de chrétiens qui vont dans le monde, ou du moins ceux qui vivent comme le monde, ils disent, ils sont ennemis de la croix de Christ. Christ n'a pas d'action, Christ mort sur la croix n'a pas d'action sur leur vie de tous les jours. Dans la seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul dit, dans la souffrance, Démas m'a abandonné, ayant aimé le présent siècle. Démas m'a abandonné. Oh, bien sûr que Démas n'est pas allé dans le monde. Bien sûr. Mais il trouvait le chemin de l'apôtre. Trop étroit. Trop étroit, Démas m'a abandonné. Et nous lisons ici, à la suite de ce que nous lisions l'année dernière, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui ne croient pas. Bien sûr, cette parole s'applique à ceux qui vraiment repoussent l'œuvre de Dieu dans son sacrifice d'expiation, mais peut-être aussi le fait que nous ne laissons pas l'esprit, maintenant que nous sommes croyants, enfants de Dieu, l'esprit nous nourrir d'un Christ qui a passé sous le jugement de Dieu, Christ, l'agneau de Dieu, rôti au feu. Alors, Jésus savait, toujours dans Jean 6, Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient ceux qui livreraient. C'est pourquoi, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, à moins qu'il ne soit donné du Père. Autrement dit, encore une fois, nous avons cette pensée-là, puisse-t-elle remplir nos cœurs par la puissance de l'Esprit. Dès lors, disons-nous, verset 66, dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne marchèrent plus avec lui. Cette parole est dure, qui peut luire. Suivre un Christ crucifié, où tout ce qui est de nous-mêmes est mis de côté, est impossible pour la chair. C'est dur pour la chair. Dur pour la chair. Alors Jésus, verset 67, dit aux douze. Jésus donc dit aux douze. Et vous? Voulez-vous aussi vous en aller? Une pensée qui a terminé notre réunion de l'an dernier. Et vous, voulez-vous aussi vous en aller? Alors Pierre répond, plein de joie. Alors Jésus dit à la fin, c'est moi qui vous ai choisi. Et pourtant l'un d'entre vous est un diable. Nous voyons que, là encore, Jésus percevait dans sa sagesse infinie, percevait chez Pierre, peut-être, un peu de suffisance. Nous savons, nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Nous, nous te suivons. Alors Jésus lui dit, c'est moi que vous ai choisi. L'un d'entre vous est un diable. Autrement dit, même cette pensée que tu peux avoir, que vous croyez, que vous savez, que vous êtes là dans le droit chemin, peut-être pouvez-vous vous en enorgueillir de cela. Alors Jésus met encore des choses au point. C'est moi qui ai tout fait. Tout ce que vous êtes dans les bénédictions dans lesquelles vous êtes, eh bien c'est moi qui ai tout fait. Vous n'êtes que des objets de grâce. La chair ne profite de rien. Et bien sûr, nous avons dans la suite la conséquence de cela. C'est la fête des pains sans vin.
On a rappelé cette parole de l'apôtre au début de la première épître aux Corinthiens. Nous prêchons Christ crucifié. Chapitre 1er et chapitre 2. Et au chapitre 5, rappelons une nouvelle fois ce verset, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. Voilà ce qui nous a effectivement occupé ce matin. C'est ce qui, je veux dire, c'est ce que Dieu a fait. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Mais qui doit être reçu effectivement par la foi. On vient de le rappeler encore. Le sang doit être placé sur le linteau et sur les poteaux. C'est de Dieu, entièrement de lui, mais reçu, saisi par la foi. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Ça fait partie de ces expressions où l'Esprit de Dieu s'exprime d'une manière qui met en évidence qu'il s'agit là de choses qui sont faites une fois pour toutes et dont les conséquences demeurent. Comme nous trouvons en Romains 5, au début du chapitre, ayant donc était justifié sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ayant donc été justifié sur... Il n'y a plus à y revenir. C'est une chose qui a été faite. Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Mais alors il y a des conséquences. C'est pourquoi. Il y a une suite. C'est pourquoi célébrons la fête. Et cette fête dont il est question là, c'est la fête qui était préfigurée par la fête des pains sans levain. Non avec du vieux levain, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Nous trouvons là quelque chose que nous retrouvons fréquemment dans la parole de Dieu, dans les pensées de Dieu. Il y a un point de départ, on peut dire un point de départ que Dieu fait, non pas l'homme. Tout repose ainsi sur l'œuvre de Dieu saisie par la foi.
Et puis de là, alors, il découle toute une suite, on peut dire une suite prolongée, dans laquelle la responsabilité de l'homme, du croyant, est mise en jeu. Et pas pour un moment seulement, mais pour une durée, pour toute notre vie. Ce dont va nous parler justement cette fête des pains sans levain, qui ne durait pas alors seulement un soir, une nuit, mais 7 jours. Une durée complète. Nous avons quelque chose de ce genre quand nous voyons par exemple ces expressions « Vous avez été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ faite une fois pour toutes. » Et puis combien d'exhortations nous trouvons alors à la sanctification pratique, à mener jusqu'au bout toute notre vie, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ces deux choses-là ne sont pas du tout contradictoires, bien au contraire. Et il ne faut surtout pas les mettre à l'envers. Ce n'est pas une mise à pas, une sanctification pratique qui peut, en quelque sorte, conduire à la vie. Absolument pas. Mais lorsque nous avons été rendus participants de l'œuvre de Christ, du sang versé à la croix, par la foi, alors il en découle effectivement des conséquences. La Pâque, la soirée de la Pâque, inaugurait toute la semaine des pains sans levain qui nous parle alors effectivement de la mise à part, de la séparation du mal.
À la suite de ce qui vient de nous être dit, au verset 15 de notre lecture, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. » Combien ce qui vient de nous être dit est excessivement important. Remarquons qu'il est dit, « Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. » Combien nous avons à veiller, comme on nous l'a rappelé ce matin avec force, à veiller sur nos maisons, sur nous-mêmes et sur nos maisons. Ça nous fait penser à Jacob en Genèse 35. Pourrions voir ce passage peut-être. Verset 2. « Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont du milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements, etc. » Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Combien ces exhortations sont importantes de nos jours. Que le Seigneur nous aide, chacun, ceux qui nous suivent, nos enfants et tous nos jeunes que nous aimons devant le Seigneur et nous-mêmes. Que le Seigneur nous accorde cette grâce.
Dieux étrangers, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En Exode 12, lisons le verset. Verset 12. « Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. » Ah, tous les dieux de l'Égypte. Il y avait d'abord les premiers-nés, hommes, bêtes. Nous pouvons être surpris de voir que les bêtes étaient comprises dans le jugement. Tous les premiers-nés, hommes ou bêtes, dans toutes les maisons des Égyptiens ont été frappés. Tout ce qui avait de la vigueur dans ces maisons, tout ce qui caractérisait la volonté de l'homme, tout ce qui nous parle de ce qui doit être jugé, tout ce qui peut nous enorgueillir, notre frère a rappelé cela tout à l'heure, il faut insister. C'est les premiers-nés qui ont été frappés. Et Dieu veut maintenant notre vigueur. Les premiers-nés lui sont tous consacrés. Ils ont tous été épargnés dans le pays d'Israël. Ils lui appartiennent en propre. Et ils ont été remplacés ensuite par les Lévites, nous le savons. Mais Dieu veut le commencement de notre vigueur. Il veut que nous lui consacrions toute notre force désormais. Pourquoi? Parce qu'il nous a épargnés dans le jugement. Mais le jugement de l'homme dans la chair est tombé sur Christ, pour nous. Mais pour les Égyptiens, il est tombé sur les premiers-nés, homme ou bête, sur tout ce qui avait de la vigueur dans toutes ses familles, sur tout ce dont l'homme peut donc se prévaloir, tout cela a trouvé sa sentence et son jugement sur la croix du calvaire. Il faut nous en souvenir cela, afin que rien de ce qui est de l'homme puisse bourgeonner. La volonté de l'homme, c'est terrible cela, c'est ce qui se manifeste en premier chez nous. Le moi, la volonté de l'homme, la volonté de la chair, tout cela est étranger à la vie de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais nous sommes nés de Dieu. La volonté de l'homme, la volonté de la chair, tout cela a trouvé sa fin dans la mort de Christ. Eh bien, il faut le réaliser, cela. Il faut le réaliser. Notre vigueur, c'est pour Christ désormais, c'est pour Dieu. Et puis alors, il y a les dieux de l'Égypte. Il y a donc le moi, il y a le monde. Il y a ces dieux de l'Égypte. Il y a ce que Dieu a jugé aussi, tout ce qui est du monde. Le chef de ce monde, toutes les choses qui sont dans le monde, tout cela est marqué par le sceau du péché, par cette puissance du péché, nous dit la parole. Tout cela a trouvé sa fin dans la mort de Christ. Le péché a été condamné dans sa chair. Ces dieux étrangers, quels étaient donc ces dieux dans le pays d'Égypte? Mais c'était précisément les dieux qui tenaient ce peuple d'Israël en esclavage. Lorsque Moïse et Aaron ont commencé à montrer les signes, les devins sont venus, les enchanteurs, tous étaient là. Et puis tous, poussés par leurs dieux auxquels ils sacrifiaient, devant lesquels ils se prosternaient, ils ont fait exactement ces miracles que Moïse et Aaron faisaient devant les yeux du Pharaon. Ils ont dit, mais votre Dieu est le nôtre, mais c'est le même, nous sommes bien capables d'accomplir tout ce que vous faites. Voilà la puissance de nos dieux qui sont avec nous. Vous servez l'Éternel, nous servons nos dieux. Chacun a sa religion, mais nous sommes aussi bien dans la bonne direction et dans la bonne voie et dans la bonne position que vous-même. Pourquoi voulez-vous partir de chez nous? Voyez donc nos dieux. Et puis finalement, ils les servaient aussi, ces dieux, les Israélites. C'est terrible de mentionner cela, qu'il fallait que ce peuple soit délivré des dieux de l'Égypte. Dieu exerçait un jugement sur ces dieux de l'Égypte, et il l'exerçait non seulement parce que ces dieux ou ces devins parlent en faisant agir ces dieux, si nous pouvons parler ainsi, en faisant appel à eux, manifestaient cette puissance diabolique qui retenait le peuple en pays d'esclavage, mais il fallait aussi que les fils d'Israël soient délivrés de cette puissance-là. Directement, parce qu'ils avaient ces dieux dans leur maison. On peut en donner deux exemples, entre autres, lisons à la fin du livre de Josué, au chapitre 24, que dit Josué? Et maintenant, craignez l'Éternel, verset 14, et servez-le en intégrité et en vérité, et ôtez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire en Mésopotamie, et en Égypte, et servez l'Éternel. Voilà, ces dieux qui étaient là encore, et devant qui Israël se prosternait encore secrètement dans les maisons. Il fallait abandonner ces dieux qui étaient venus jusque sur les rives du Jourdain et qui avaient traversé le Jourdain avec ce peuple. C'est terrible de lire cela. Nous pouvons d'ailleurs en avoir la confirmation au 22 de ce même chapitre, 23. Et maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers l'Éternel. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ils avaient ramené cela de l'Égypte. Tout n'était pas encore jugé. On voit quelle perversité dans le cœur de l'homme. Voilà un peuple racheté qui avait traversé le désert par la grâce de Dieu et sa puissance, qui était entré dans le pays d'Israël de Canaan, qui occupait ces lieux, qui avait conquis par la puissance, la force de l'Éternel, qui avait conquis ce pays. Ils avaient encore dans leur maison les dieux de l'Égypte. Mais ne jetons pas trop la pierre à ces enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il se trouve encore dans nos maisons? Est-ce que, comme le disait notre frère tout à l'heure, nous avons purifié nos maisons et nos cœurs? Purifiez-vous de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. Eh bien, regardons dans nos cœurs, il y a toujours l'homme. Regardons dans nos maisons, il y a toujours le monde. C'est terrible, cela, d'en être encore là, après toutes les choses qui nous ont été enseignées. Il faudrait pourtant que nous mettions nos cœurs et nos maisons en accord avec l'enseignement de ce chapitre. En Ézéchiel aussi, nous voyons que les prostitutions qui datent de l'Égypte, Ézéchiel 23, verset 8, eh bien, c'était des prostitutions devant qui Israël s'était encore prostitué, des prostitutions qui datent de l'Égypte. Nous renonçons très difficilement et à ce que nous sommes en nous-mêmes, notre moi, et à ces choses du monde qui nous attirent d'une façon perverse, insidieuse. Nous les cachons secrètement. Nous pouvons bien penser que les fils d'Israël qui avaient ces dieux de l'Égypte dans leur maison ne les montrait pas ouvertement peut-être, mais il les révérait quand même. C'est terrible d'en être encore là, mais que pour nous, il y ait véritablement quelque chose qui soit droit devant notre Dieu. Des pains sans levain, de sincérité est-il dit et de vérité. Soyons sincères, soyons vrais devant Dieu. Un cœur qui est en état, un bon état, c'est un cœur qui est vrai devant Dieu, non pas devant les hommes. On peut être facilement hypocrite, mais devant Dieu d'abord, et nous le serons aussi alors devant les hommes. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Nous pouvons relire ce verset 139 qui est véritablement la réalisation des pains sans levain. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin et conduis-moi dans la voie éternelle. Voilà, un cœur vrai. Celui qui se nourrit des pains sans levain, de sincérité et de vérité, c'est un cœur qui se laisse sonder par la lumière de Dieu. Regarde, ô Dieu, et vois ce qu'il y a au-dedans de moi. Il y a peut-être des choses que je me cache à moi-même, mais toi, tu vois toutes choses. Eh bien, révèle-le-moi afin que je le juge et que je l'extirpe de mon cœur, que je sois sincère et droit devant toi. Sincérité, vérité, voilà ce qui concerne les pains sans levain. Par contre, le vieux levain, c'est la chair avec cette nature que nous avons héritée et qui ne peut produire que de mauvais fruits. Et puis, il y a les mauvais fruits, il y a les levains de malice et de méchanceté, est-il dit. Tout le contraire de la sincérité et de la vérité. Malice et méchanceté, c'est ce qui vient du diable, c'est ce qui fait bourgeonner si nous laissons la chair agir. Alors, veillons à garder les pains sans levain, à les manger, à nous en nourrir dans nos cœurs et à en nourrir notre maison.
À cet égard, le dernier verset du nombre 15, on trouve plusieurs reprises dans la parole, ça se rappelle, qui montre justement combien nos cœurs risquent d'être oublieux de ce qu'est Dieu et son caractère. Dernier verset de nombre 15, « Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. »
Lorsque Moïse demande « Que dirai-je quand j'irai vers le Pharaon ?» et Dieu lui répond « Dieu dit à Moïse au verset 14, Exode 3, verset 14, « Quand ils me diront quel est ton nom, que leur dirai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et un peu plus bas, fin du verset 15, « C'est là mon nom éternellement, et c'est là mon mémorial de génération en génération. Je suis celui qui suis, celui qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est là mon nom éternellement. » L'Éternel, celui qui était avant et après. Et hors moi, comme Ésaïe 40 et quelques nous le dit, hors moi il n'y a point d'autre Dieu qui sauve.
Exode, c'est là où il révèle ce nom de l'Éternel, précisément. Chapitre 6, verset 2, et Dieu parla à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel, c'est-à-dire Jéhovah. » Au patriarche, il s'était révélé comme le Dieu Tout-Puissant. Il n'avait pas été connu d'eux par son nom d'Éternel, mais c'est le Dieu de l'Alliance, l'Éternel. Celui, le Dieu de l'Alliance éternelle, le Dieu qui ne varie pas, le même, je suis éternellement, l'Éternel. Voilà son nom, et voilà son nom d'alliance avec son peuple d'Israël. Et voilà pourquoi ce peuple d'Israël, connaissant un tel Dieu, ne devaient plus servir d'autre dieu que celui-là. Les dieux de l'Égypte, c'était terminé, ils étaient jugés.
Que vous me croyez et que vous compreniez que moi, je suis le même. Avant moi, aucun dieu n'a été formé, et après moi, il n'y en aura pas. Moi, je suis l'Éternel, et hors moi, il n'y en a point qui sauve. Moi, j'ai déclaré, et j'ai sauvé, et j'ai fait entendre, quand il n'y avait pas de Dieu étranger au milieu de vous. Et vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, que je suis Dieu. Aussi, depuis qu'il y a un jour, je suis le même, et il n'y a personne qui délivre de ma main, j'opérerai, et qui peut m'en détourner. Quelle certitude, quelle assurance dans de tels versets.
à cet égard, chapitres 18 et 19, mais particulièrement au début du chapitre, « Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, « Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point de dieu de fonte. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et ainsi pour tout le chapitre. Combien cela, pensons-nous, est solennel, mais aussi précieux.
Vous ne vous ferez pas d'idole, vous ne vous dresserez pas d'image taillée ou de statue, vous ne mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays pour vous prosterner devant elle, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous garderez mes sabbats, et vous révérerez mon sanctuaire. Moi, je suis l'Éternel. Révérer, ce qui signifie respecter, honorer. Révérence et avec crainte, comme le dit Hébreux 12.
C'est Lévitique 19, le début du chapitre, et précisément c'est ce verset-là que l'apôtre Pierre cite avant de parler de l'agneau de Dieu. Vous serez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Eh bien, l'apôtre Pierre cite ce passage de Lévitique 19 avant de nous parler de ce que l'agneau de Dieu a souffert pour que nous soyons saints comme Dieu est saint, saints dans toute notre conduite. C'est important.
On est frappé quand on lit dans les évangiles les derniers moments du Seigneur avant la croix. On y voit toute l'hypocrisie des Juifs au moment où ils vont célébrer la Pâque. À cet effet, il y a quelques versets qui pourraient être rappelés dans Jean 18, Jean 19 et Jean 20. Jean 18, verset 28, ils mènent donc Jésus chez Caïphe au prétoire, et eux-mêmes ils n'entrèrent pas au prétoire, afin qu'ils ne fussent pas souillés, mais qu'ils pussent manger la Pâque. Au verset 39, vous avez coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Chapitre 19. Verset 14, c'était la préparation de la Pâque. C'était environ la sixième heure. Et encore ce passage, Jean 19 encore, verset 31. Les Juifs donc, afin que les corps ne demeurassent pas sur la croix en un jour de sabbat, puisque c'était la préparation. Car le jour de ce sabbat-là était grand. Combien il est solennel de considérer que dans les voies de Dieu, le Seigneur est mort le jour de la célébration de la Pâque, et qu'il était dans le tombeau le jour du sabbat. Ce sabbat qui avait été institué par Dieu comme étant le repos, Christ le passe dans le sein de la mort. Mais nous voyons les Juifs qui ne voulaient pas se souiller, hypocrites comme ils l'étaient, en mettant le Fils de Dieu à mort, ils n'entrent pas au prétoire. Ils avaient du scrupule pour ne pas entrer, mais ils n'en avaient pas pour mettre le Fils de Dieu à mort. Combien c'est solennel, malgré tous ces enseignements de l'Écriture, eux qui se considéraient comme le peuple de Dieu, une fête des Juifs, il nous est dit, à bien des égards dans cet évangile. Mais ils mettent à mort le Fils de Dieu. Combien c'est solennel. Je voudrais dire deux mots aussi concernant les heures de la croix. Nous savons que dans les heures de la croix, il y a eu deux moments. De la troisième à la sixième heure, le premier moment. De la sixième heure à la neuvième heure, les heures de ténèbres. Dans la première partie, Christ souffre pour la justice. Il est là l'objet de l'ignominie de l'homme, le dernier outrage de l'homme contre le Fils de Dieu. Nous pouvons dire que là s'accomplissaient ces voies de Dieu où Christ n'était pas encore le substitut. Et nous pourrions dire à cet égard que il nous faut considérer ce que Dieu est à l'égard dans son gouvernement et ce qu'il est dans sa colère. La colère de Dieu gouvernemental peut s'accomplir dans la mort de l'homme, le jugement jusqu'à la mort, mais dans ce jugement, il n'y a pas la colère de Dieu. Nous avons l'expression de la colère de Dieu dans ce qui s'est passé dans les heures de ténèbres seulement, de la sixième à la neuvième heure. Il faut savoir pour nous, pour nos âmes, ce qu'il en a été de Christ dans un tel moment. Nous disons souvent, nous sommes à un jet de pierre, nous sommes loin, nous ne pouvons pas pénétrer. C'est tout à fait vrai. Mais nous connaissons l'efficace, nous connaissons le résultat, et puis nous savons aussi ce qui s'est passé par les récits des psaumes, ce qui s'est passé dans le cœur de Christ, dans ces heures inoubliables qui ont marqué son cœur. La colère divine contre le péché est une chose tout à fait à part. Les souffrances que des hommes peuvent endurer peuvent atteindre un niveau qui va jusqu'à la mort. Mais ce qui leur est absolument étranger, c'est cette souffrance unique qui est la colère de Dieu contre le péché. C'est cela que Christ a traversé pendant ces heures et c'est là seulement qu'il a été notre substitut. C'est là que Dieu a mesuré et traité dans sa personne sainte le péché comme il ne le sera plus jamais. C'est là que la coupe de la colère divine a été vidée, et vidée où l'œuvre a été achevée pour tous les saints. Bien entendu, ceux qui ne sont pas au bénéfice d'une telle œuvre, un jour Dieu se ceindra du reste de la colère, comme il est dit dans un psaume. Et alors, il lancera les conséquences éternelles d'avoir refusé un Dieu d'amour. Ce jour qui durera au siècle des siècles, et nous désirons rendre attentifs ceux qui n'auraient pas encore répondu dans leur âme aux appels de Dieu dans leur conscience, parce qu'ils seront alors l'objet d'un traitement judiciaire de la part de Dieu pendant l'éternité. Ils seront séparés d'un Dieu d'amour pendant l'éternité, et ce jugement sera éternel.
Comprenons que s'il a fallu que la colère de Dieu tombe de cette manière-là sur celui qui était là, le sacrifice pour le péché, sur celui qui expiait ce péché-là, comprenons combien nous devons avoir le cœur disposé à marcher en dehors du péché désormais. La fête des pains sans levain durait 7 jours, un temps complet, pour nous toute la vie. Dieu a permis que ce peuple parte du pays d'Égypte avant que la Pâque fût levée. Ils ont mangé ce jour-là des pains sans levain, tout de suite après la Pâque. Avant que la Pâque fût levée, verset 34. Ils avaient leurs huches liées dans leurs vêtements sur leurs épaules. Ils s'en allaient à la hâte. Ils étaient prêts pour partir et ils avaient avec eux des pains sans levain. Quelle belle image de ce que nous devons manifester nous-mêmes. Mangeons-nous des pains sans levain? Sommes-nous prêts à partir? Notre frère a rappelé ce matin
Une des caractéristiques de ce chapitre est qui est inscrite dans le verset 11e, vos reins saints, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main. Les reins saints, prêts à marcher ainsi avec les vêtements en rapport avec une marche, même une marche rapide, hâtive, ils s'en allaient à la hâte. Vos sandales à vos pieds, prêtes à traverser le désert, et votre bâton en votre main, des pèlerins. Voilà ce qui était devenu ce peuple, un peuple qui traverse le désert, un peuple qui se rend vers le pays de la promesse et qui le montre dès le départ du pays d'Égypte. Non pas au bout d'un jour, d'un mois, d'une année ou de 40 années, c'est le jour même. Ils étaient manifestement prêts à partir, c'était pour partir qu'ils avaient été placés sous l'aspersion du sang. Pour partir, pour servir l'Éternel, le chemin de 3 jours dans le désert. Voilà la pensée de Dieu initiale. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, en vue de ma louange. C'est pour cela qu'il faut qu'il parte. C'est pour cela qu'il faut qu'il se sépare des idoles de l'Égypte. C'est pour cela qu'il faut qu'il purifie son cœur et ses maisons, afin de me rendre culte dans le désert. Voilà la pensée de Dieu. Pour que ce peuple puisse venir à sa montagne sainte qui était Horeb, là, dans le désert, là où Dieu s'était révélé dans le buisson, le Dieu d'Israël, c'était là que le peuple devait venir adorer. Et pour cela, il fallait qu'il soit au bénéfice du sang versé, du sang de l'agneau de la Pâque. Il fallait qu'il soit prêt pour faire ce chemin de 3 jours. Et pour nous, cela symbolise, nous le savons, la mort de Christ. Et il fallait qu'ils puissent partir avec des pains sans levain, afin qu'il n'y ait point de levain sur leurs épaules. Voilà notre attitude, si nous sommes conformes à l'enseignement de la parole. Voilà ce qui doit caractériser nos vies, notre marche, nos maisons, pas de levain. Quelques-uns diront, mais c'est difficile, jour après jour, toute la vie, se séparer de ces choses qui, dans lesquelles le monde se complète, ou se priver de tout. Ah, pas du tout, dit la parole. La fête des pains sans levain, c'est une fête, c'est quelque chose d'heureux, c'est quelque chose qui doit réjouir le cœur tous les jours de la vie. Ça doit toujours être une fête, jamais quelque chose de pénible, jamais quelque chose de forcé. Nous ne sommes privés de rien. De quoi serait privé quelqu'un qui en a fini avec le monde, qui est crucifié, et de le monde, dont le monde lui est crucifié aussi? De quoi aurait-il envie? De quoi est-il privé? Mais de rien du tout. C'est une fête continuelle. Pourquoi? Parce qu'il a le Seigneur devant ses yeux. Il l'a dans son cœur, il le sert. C'est quelque chose de continuel, d'heureux, de se purifier pour lui tous les jours, d'être là, propre, pour son service, pour sa gloire, pour sa louange. C'est une fête continuelle. Mais quelques-uns diront, mais c'était une fête pour les Juifs, pour les enfants d'Israël. Ah oui, il y a eu des fêtes des Juifs où Christ était absent. La fête, c'était la fête. Mais pour nous, la fête, c'est une fête. Pour nous aussi, comme elle était aussi instituée pour Israël. L'apôtre Paul nous le dit pour nous, il ne le dit pas pour les Juifs. Il dit, Christ, notre Pâque a été sacrifié, c'est pourquoi célébrons la fête. Nous, chrétiens, nous sommes entrer dans ce domaine heureux où nous pouvons tous les jours célébrer cette fête, où nous pouvons tous les jours servir Dieu parce que nous avons été délivrés de cette oppression de l'Égypte, de cet esclavage. Ceux qui célèbrent des fêtes dans le monde, ce sont des esclaves. Nous qui célébrons la fête des pains sans levain, nous sommes des hommes libres, nous sommes des affranchis, nous sommes de ceux qui maintenant avons le cœur libre et heureux pour servir notre Dieu, pour servir le Seigneur. Est-ce que nous réalisons tout cela?
Jugez l'Égypte, jugez le mal en Égypte. Il ne pouvait pas non plus condamner le mal dans la personne du substitut qu'il se présentait, et il ne pouvait pas en même temps tolérer le mal chez ceux qui étaient au bénéfice du sacrifice. Dieu peut venir en Égypte, c'est ce que nous avons au début du chapitre. Il vient en Égypte parce que son peuple ne pouvait pas sortir de l'Égypte tout seul. L'Éternel parla aux fils d'Israël en Égypte. Mais le but de Dieu, comme on l'a rappelé, c'était de faire sortir son peuple d'Égypte. Et c'est ce que nous avons à la fin du chapitre. Il arriva en ce même jour que l'Éternel fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Ainsi comme nous trouvons aussi au début des Galates, Christ est mort pour nos péchés. Et nous avons là la mesure de l'horreur que Dieu a du péché, puisqu'il a été nécessaire que Christ meure pour ses péchés. Mais le but de Dieu, c'est de nous retirer de ce présent siècle mauvais, afin qu'il nous retira de ce présent siècle mauvais. Et ainsi, n'est-ce pas, nous n'appartenons plus à ce monde. Mais moralement déjà, la pensée de Dieu, c'est que nous soyons retirés de ce présent siècle mauvais. Et il faut donc ôter les dieux d'Égypte, comme cela a été rappelé. Il faut célébrer pendant le temps complet de notre vie cette fête des pains sans levain. Et on a rappelé cette fin des Galates, n'est-ce pas ? La croix de Christ. La croix de Christ est une barrière entre nous et le monde. La croix de Christ par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde.
Quelle valeur la mort de Christ a-t-elle pour nos âmes ? Si nous avions vécu au moment où le Seigneur est mort, ou a été mis à mort, est-ce que ces scènes qui auraient été dépeintes, déployées à nos yeux, n'auraient pas eu un caractère puissant et vivant ? Est-ce que nous célébrons aujourd'hui dans les rassemblements la mort du Seigneur comme si elle venait d'avoir lieu, conviendrait bien qu'il en soit ainsi, parce qu'elle a toute cette valeur-là aux yeux de Dieu, et son efficace est pour nous divine et éternelle. Que s'est-il passé au premier jour de l'histoire de l'Église ? Ils rompaient le pain dans leur maison, ils persévéraient dans la fraction du pain. Nos devanciers ont dit, ils célébraient la scène tous les jours. Est-ce que nous sommes prêts à cela ? Est-ce que la mort et les souffrances de Christ ont un tel prix à nos yeux que nous désirerions qu'il en soit ainsi ?
Si nous lisons, comme on l'a déjà fait, en 1 Corinthiens 5, au verset 7, l'apôtre dit ici aux Corinthiens, « Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. » Comme on vient de le rappeler, si le Seigneur, dans sa grâce, nous a permis jusqu'à ce jour de pouvoir nous réunir autour de lui chaque premier jour de la semaine, autour de sa table, nous sommes là comme l'expression, faible sans doute, mais expression de l'assemblée de Dieu. Combien ce résultat glorieux de la mort de notre bien-aimé Sauveur est important de nos jours. Nous sommes unis ensemble en un seul corps et nous manifestons cette unité à la table du Seigneur. Comme faisaient autrefois les, on vient de le rappeler, les persévérés dans la communion des apôtres, la fraction du pain et les prières. Et l'apôtre dit, acte 20, lorsque nous étions assemblés pour rompre le pain, quelle mission importante maintenant l'Église a reçue de son chef. Est-ce que nous répondons à sa pensée ? Et il en est toujours ainsi, nous devons là manifester collectivement ce que nous sommes et faire en sorte que notre vie, comme on l'a rappelé, correspondent avec cet acte si précieux, à la fois précieux et solennel, quand nous approchons de la table du Seigneur pour rompre le pain et pour boire la coupe. Combien cela devrait toucher nos cœurs et remplir nos cœurs d'affection toujours plus profonde pour celui qui nous a aimés, comme a pu le dire l'apôtre, et comme aussi l'apôtre le redit, Christ a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Vous êtes une nouvelle pâte, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. L'assemblée vue aux yeux de Dieu est sans levain. Elle est parfaite, elle est pure, parce qu'elle est lavée dans le sang de Christ. Dans la pratique, il en est autrement. C'est pourquoi, nous, si nous considérons ce chapitre 12 de l'Exode, cette fois, il est parlé à partir du verset 15 du levain. Et disons aussi que le levain, dans la parole de Dieu, est toujours l'emblème du mal. Le mal qui commence sous une petite forme et qui s'étend et qui fait beaucoup de ravages à cause de ce que nous sommes, à cause de l'ennemi, à cause du monde.
Dans ce chapitre, deux choses ressortent. Quant à Israël en tant que peuple, ils sont représentés comme étant l'assemblée d'Israël d'une part et comme les armées de l'Éternel d'autre part. Quant à l'assemblée, elle doit être purifiée. Initialement, c'est le sang de Christ. C'est ce qui purifie de tout péché. Et pratiquement, c'est une vie dans la fête des pains sans levain. Dans chaque maison d'Israël, il devait en être ainsi. Dans chacune de nos maisons, parce que ce sont toutes nos maisons qui composent ainsi l'assemblée locale, il doit y avoir cette purification pratique. Et celui qui, en Israël, n'observait pas ce commandement précis, celui qui mangeait de ce qui était levé pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain, était retranché de la congrégation d'Israël, retranché. Cet homme-là, verset 19, sera retranché de l'assemblée d'Israël. Nous comprenons que il ne peut pas y avoir de la souillure à la table du Seigneur. Elle est sainte. Il y a là les signes de ses souffrances et de sa mort. Et dans 1 Corinthiens 5, si l'apôtre demande à ce que le levain soit ôté, c'est parce qu'il y avait là aussi du levain de méchanceté au milieu de l'assemblée à Corinthe. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Du levain de méchanceté dans un cœur non purifié. Il fallait qu'il soit mis hors de communion. Cela est un ordre divin. Par la voix de l'apôtre, cela doit être observé dans toutes les assemblées des saints afin que la table du Seigneur soit conservée sainte et pure. C'est sa table, ça n'est pas la nôtre. Et nous comprenons que ce qui doit se passer dans nos vies a une correspondance immédiate à la table du Seigneur. Nous comprenons ce que doivent être nos vies en raison précisément de la sainteté de la table du Seigneur à laquelle il nous convie, à laquelle nous sommes assis avec lui. C'est quelque chose très précieux pour nos cœurs, mais c'est quelque chose aussi qui doit exercer nos consciences continuellement dans nos maisons, dans nos maisons. Et puis, outre l'assemblée, il y avait donc les armées de l'Éternel. C'est remarquable de voir cette expression surgir là à plusieurs reprises. Verset 17, « Vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. » Au verset 41, il arriva au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Au verset 51, il arriva en ce même jour que l'Éternel fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. On peut penser à la lecture de ce chapitre au premier, dans une première lecture que c'était finalement un peuple d'esclaves qui s'enfuyait. C'était des gens qui essayaient de se sortir du joug du pharaon, du joug d'un maître dur. Pas du tout. Ce n'est pas un peuple d'esclaves qui s'enfuit, ce sont les armées de l'Éternel qui sont enfin libérées. C'est un peuple enfin racheté, c'est un peuple qui lui appartient en propre depuis qu'il l'a choisi, depuis qu'il en a fait la promesse à Abraham, pour lui et pour sa semence. C'est un peuple qui lui appartient en propre, qu'il le délivre au temps convenable, il a compté les années, il a compté les jours. 430 ans, pas un de plus. Le temps de l'esclavage est terminé. Le temps que l'iniquité des Amoréens parvienne à son comble, voilà le temps de Dieu. Il fallait aussi qu'il exerce le jugement sur Canaan, pas rien que sur l'Égypte. Et Dieu avait compté les jours, il avait compté les années, et voilà. Le temps est terminé, c'est le temps de Dieu. C'est le temps, au moment où il délivre son peuple, mais c'est une libération glorieuse. C'est un peuple qui sort vainqueur. Ce sont les armées de l'Éternel qui sortent victorieuses. L'Éternel a détruit entièrement les ennemis. C'est un peuple qui profite de cette victoire, mais cette victoire lui est attribuée. Ce sont les armées victorieuses de l'Éternel qui s'en vont. C'est un peuple qui est décompté suivant les hommes de pied, suivant les hommes faits, suivant les 600 000 hommes qui symbolisaient l'armée de l'Éternel, ceux qui étaient propres au service militaire. Voilà ceux qui sont décomptés. Il y a les femmes, il y a les enfants, mais là, 600 000 hommes de pied, Dieu compte ses armées. C'était elle qui devait être libérée, c'était elle qui devait symboliser la victoire de l'Éternel, c'était aussi la victoire de son peuple. Nous sommes un peuple racheté, mais un peuple vainqueur. Nous ne sommes pas des gens qui sont sortis misérablement du joug de Satan, ce qui est d'un côté très vrai, comme ce peuple était un peuple d'esclaves, mais considérons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a vaincu l'ennemi, plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est lui qui a été le vainqueur de l'ennemi, nous l'avons rappelé ce matin, à la croix du calvaire, il a défait toutes ses principautés, toutes ses autorités.
Mais les armées de l'Éternel, maintenant, c'est nous. C'est un peuple victorieux. Eh bien, montrons les signes de la victoire. Montrons-le, conduisons-nous comme des gens vainqueurs. Vainqueurs de Satan, vainqueurs du monde, vainqueurs de toutes ces tentations et de toutes ces épreuves. Nous ne pouvons l'être que si nous sommes avec le vainqueur.
Si dans notre chapitre, nous voyons Christ, l'agneau de Dieu, en Josué 5, nous voyons l'homme qui se présente à Josué une épée nue à sa main. Et lorsque la question lui est posée, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? La réponse est non. Mais c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu aujourd'hui. Voyons Jésus comme le chef de l'armée de l'Éternel. Si nous le voyons dans l'abaissement le plus profond, à la place qu'il a prise sous le jugement même de Dieu pour nous, pour tirer son peuple, pour le racheter, eh bien nous le voyons également comme celui qui est élevé et comme chef. On pense à ce verset, il a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée. Alors nous voyons effectivement cette fête des pains sans levain. Il semble que les instructions qui la concernent soient données en quelque sorte deux fois dans ce chapitre. Du verset 14 au verset 16 et puis du verset 17 au verset 20. Peut-être pourra-t-on donner quelques indications sur l'intérêt de cette répétition, en tout cas. Il semble que cela en souligne l'importance aux yeux de Dieu que la chose ne soit ainsi répétée deux fois. Et la première chose qui est dite au verset 14, c'est « Ce jour-là vous sera en mémorial, vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel, comme un statut perpétuel ». Et au verset 17, « Vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. » Et immédiatement après, « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. » Et au verset 18, « Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. » Donc c'est bien ce jour, le jour de la Pâque, qui est le premier jour des pains sans levain. Il y a une association très étroite, on peut dire inséparable, entre les deux choses. Et c'est un mémorial. Il y a ce qui a été fait une fois. La Pâque, pour les Juifs, a été célébrée une fois. Dans cette mise à l'abri du jugement. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et ensuite, il y a eu un mémorial qu'il devait renouveler chaque année. Se souvenir justement de l'Éternel lorsqu'il avait fait sortir son peuple d'Égypte. De la même manière, maintenant que Christ, notre Pâque, a été sacrifié, eh bien, nous avons nous aussi un mémorial. Faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a plus rien à renouveler. Nous savons bien, mais nous aimons le rappeler, la chose a été faite une fois pour toutes, mais elle demeure, cette chose, devant Dieu, avec sa valeur éternelle, et c'est notre part heureuse que de nous en souvenir et de la rappeler toutes les fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Il y aura un temps où ce mémorial sur la terre cessera. Mais pour le temps présent, c'est le temps du mémorial. Et alors nous voyons qu'il y avait dans le pain sans levain, à la fois ce qui concerne chacun individuellement, on a souligné à plusieurs expressions, Et puis, le levain qui devait être ôté de la maison, dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Puis quiconque mangera du pain levain du premier au septième jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Et pendant 7 jours, verset 19, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Il y a un côté individuel et un côté collectif. Mais on remarque que le côté collectif ici, en quelque sorte, est limité en quelque sorte aux maisons. On ne voit pas ici de mention relativement à toute l'assemblée d'Israël. Est-ce que cela ne met pas l'accent sur la responsabilité justement que l'apôtre développe en 1 Corinthiens 5 à l'égard de l'assemblée locale, cette responsabilité de la séparation du mal, ôter le vieux levain. Il y a la nécessité pour nous de vivre pratiquement, individuellement, dans la séparation du mal, de veiller sur nos maisons, et puis c'est l'apôtre lui-même qui, par le Saint-Esprit, tire de ses enseignements une application directe quant à la nécessité de la discipline dans l'assemblée locale. Et cela met devant nous en particulier en évidence l'importance de la chose. Combien dans notre temps entendons de voix pour dire « Mais de quel droit est-ce que les croyants peuvent-ils exercer quelque discipline que ce soit ? Chaque croyant est appelé à se juger lui-même et puis à participer selon sa propre appréciation. » Et nous voyons que combien les enseignements de l'apôtre, qui se traduisent par cette phrase si simple, « ôtez le vieux levain, ôtez le méchant du milieu de vous-même », se lie aux racines même, au fondement de la foi chrétienne. Quand nous voyons justement de quelle manière la fête des pains sans levain, à laquelle l'apôtre fait allusion, est lié intimement à la Pâque, au sacrifice.
Il est certain que s'abstenir de faire la Pâque quand on faisait partie du peuple d'Israël était quelque chose de profondément inique. Cela signifiait, mais je ne suis pas racheté, je ne fais pas partie du peuple d'Israël, la Pâque ne signifie rien pour moi. Quelqu'un qui était pur et qui n'était pas en voyage et qui ne voulait pas faire la Pâque manifestait tout simplement qu'il ne faisait pas partie de ce peuple racheté. Il n'avait aucun droit de rester même nominalement dans ce peuple, il devait être retranché. Pour nous, nous n'avons pas un enseignement aussi rigoureux, mais nous avons quand même un enseignement qui devrait nous parler à notre conscience, parler au cœur. Nous sommes des rachetés de Christ, et une âme qui sait qu'elle est rachetée par le sang précieux de Christ, comment ne voudrait-elle pas s'approcher et participer à ce mémorial? Pourquoi resterait-elle en arrière? Ce n'est pas qu'elle sera retranchée du peuple de Dieu, mais elle ne participera pas à la communion heureuse du peuple de Dieu dans ce sacrifice. Elle s'en privera. Et elle se prive assurément d'une bénédiction excellente, mais plus encore, elle frustre le Seigneur de ce qui lui est dû. Le Seigneur invite à s'approcher de sa table, « Prenez, mangez, buvez-en tous ». C'est une invitation pressante, heureuse, son cœur le désire. Si l'on ne le fait pas, eh bien, voilà, nous sommes non seulement privés d'une bénédiction particulière, de ce privilège de se souvenir de lui dans ses souffrances et dans sa mort, mais nous le privons de ce qui lui revient de droit dans nos cœurs. De la première chose qui lui tient à cœur, c'est qu'on se souvienne de tout ce qu'il a souffert, et se souvenir de ce qu'il a souffert de la manière la plus éloquente, la plus puissante qui soit sur la terre. Nous comprenons que si nous ne sommes pas placés sous cette loi terrible de celui qui ne voulait pas participer à la Pâque, bien qu'étant pur et n'étant pas en voyage, eh bien, néanmoins, s'il n'y a pas de retranchement, il y a, pour celui qui reste en arrière, comme un refus de participer à la communion de l'Assemblée, dans ces choses si précieuses au cœur du Seigneur.
Je pense que ça devrait nous interpeller chacun pour que nous fassions toujours ce geste à l'égard du Seigneur avec un cœur comme renouvelé et une conscience purifiée, mais aussi pour celui qui reste en arrière, que sa conscience soit exercée à cet égard et que son cœur s'ouvre, parce que c'est une question de cœur bien autant que de conscience. Il y avait aussi, évidemment, dans le nombre 9, cette institution du second mois, cela n'avait pas été édicté dans notre chapitre 12 de l'Exode, cela vient dans les circonstances du désert, il y a des choses qui ne permettent pas à quelques-uns d'être là le 14e jour du premier mois, eh bien, il fallait venir le 14e jour du second mois. Il ne fallait pas pour autant oublier, ni rester en arrière, ne pas pouvoir participer à cette Pâque de l'Éternel, il fallait être prêt au moins le second mois. Nous savons que c'est ce qui s'est produit du temps d'Ézéchias, où il a fallu attendre le second mois pour qu'il y ait un peuple qui, même alors, n'était pas encore entièrement purifié. Mais enfin, Dieu a usé de miséricorde, c'était un temps de faiblesse, un temps de ruine, mais un temps où quand même, au nom de tout Israël, la Pâque a été célébrée. Nous sommes dans des temps de faiblesse, il faut reconnaître que tout n'est pas parfait, qu'à la table du Seigneur, nous voudrions qu'il y ait une sainteté, une pureté absolue, plus marquée encore qu'elle ne l'est apparemment dans nos assemblées. Mais, de toute façon, ça n'est pas une raison pour rester en arrière, ça n'est pas une raison pour s'abstenir une fois ou l'autre. Notre place est là, et le repas est toujours là. Et le Seigneur est toujours là pour nous présenter cela. Et nos cœurs doivent toujours être prêts à recevoir de sa main ces signes qui nous parlent de ses souffrances.
Semblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que nous voyons le jour approcher.
Le Seigneur attend tous les saints à sa table. Il a dit « Buvez-en tous ». Tous sont invités. Alors, celui qui ne s'approche pas, il s'excommunie lui-même. Les uns peuvent dire, ou d'autres, oui, c'est une chose sérieuse, sans doute. Nous n'en doutons absolument pas. C'est une chose très sérieuse et très solennelle à la fois. Mais est-ce que cela doit nous dispenser de nous approcher? Et puis, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est aussi un témoignage. Ce n'est pas dans le ciel que nous rendrons témoignage. Il sera trop tard.
Au verset 11, Dieu permettait que la Pâque soit célébrée au deuxième mois, mais les ordonnances n'avaient pas changé. Verset 11, ils la feront le second mois, le 14e jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien de reste jusqu'au matin et n'en casseront pas un os. Ils la feront selon tous les statuts de la Pâque. Nous voyons là que Dieu désire que cela soit fait selon ce qu'il est lui-même, selon sa pensée, pour sa gloire et pour le bien des siens. Pour nous aujourd'hui, il en est de même. S'approcher de la table du Seigneur est quelque chose d'excessivement précieux. Nous souvenir de la mort de notre cher et bien-aimé Sauveur. Mais combien il faut bien que nous le ressentions cela dans le profond de nos cœurs, combien cela aussi et solennel. Nul ne devrait s'abstenir. Mais quand nous approchons de la table du Seigneur, nous chantons quelquefois cette sainte table. La table du Seigneur est une table sainte. On a rappelé ce matin en Malachie où le Dieu dit « Vous avez méprisé la table du Seigneur ». Mépriserions-nous aujourd'hui la table du Seigneur?
Peut-être encore continuer sur ce sujet, toujours en relation avec la Pâque. Si
sur ce sujet de la scène du Seigneur en particulier, apprendre des choses de la bouche des petits-enfants maintenant. D'abord, dans notre chapitre, verset 26. « Quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous ce service ? Il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. » Est-ce que nos enfants nous interrogent ? Est-ce que ils sont libres de le faire ? Est-ce que de leurs réflexions, de leurs questions, nous en tirons un profond enseignement pour nous-mêmes, un profond exercice. Il faudrait que ce soit ainsi, qu'il y ait dans nos maisons, la Pâque était célébrée dans les maisons, les enfants posaient des questions. Que signifie pour vous ce service ? Ce qui se passe dans nos maisons doit interroger nos enfants et susciter des questions et compléter l'enseignement jour après jour. Voilà une maison heureuse, voilà des enfants qui sont libres de parler de ces choses si précieuses qui doivent nous être à cœur. Et sommes-nous heureux de leur répondre ? Est-ce que nous apprenons quelque chose à travers toutes ces réflexions qu'ils font ? Il faut que nous puissions leur répondre avec une bonne conscience. Avec une bonne conscience. Quel est pour vous ce service ? Mais nous servons l'Éternel, celui qui nous a délivrés, celui qui nous a protégés parce que le sang était sur la maison, sur les poteaux de la maison, devant la porte. L'ange destructeur n'a pas détruit les premiers-nés parce que le sang était là. Alors, année après année, nous célébrons cette délivrance du jugement de Dieu. Nous célébrons aussi la délivrance du pays d'Égypte. Tout cela, nous le rappelons. Cela est cher à nos cœurs. Est-ce que nos enfants voient cela dans nos maisons, ce qui est cher à nos cœurs, ce que nous rappelons dimanche après dimanche, ce que nous vivons chaque jour dans la fête des pains sans levain. Voilà ce qui est heureux dans les maisons. Voilà ce qui est heureux dans l'assemblée formée de toutes ces maisons. Voilà ce qui donnera un vrai ton au culte. Voilà ce qui donnera un sentiment de respect, d'honneur dû au Seigneur qui est au milieu de nous et qui préparera nos cœurs à ce repas d'amour. Et puis, les enfants continuaient, nous le voyons alors au chapitre 13, toujours sur le même sujet, au verset 14. Chapitre 13, verset 14. « Et quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant, qu'est-ce que ceci ? Alors tu lui diras, à main forte, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et il arriva quand le Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser aller, que l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bêtes, c'est pourquoi je sacrifie à l'Éternel tout ce qui ouvre la matrice, les mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils, et ce sera un signe sur ta main et un fronteau entre tes yeux, car à main forte l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Qu'est-ce que ceci ? Racheter chaque premier-né dans chaque famille. Les enfants pouvaient s'interroger, qu'est-ce que signifie cela ? Eh bien voilà, Dieu a épargné tous les premiers-nés alors que tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte étaient mis à mort. Enfants, vous avez été épargnés, vous êtes vous aussi placés sous la merveilleuse aspersion du sang de Christ. Est-ce que vous croyez cela ? Est-ce que dans la vigueur de votre jeunesse, vous allez vous tourner vers celui qui vous a épargné, qui a fait tomber sur lui, sur l'agneau de Dieu, le châtiment que vous méritiez ? Eh bien maintenant, vous lui êtes consacré. Chaque premier-né appartenait à l'Éternel. Il ne s'appartenait plus à lui-même. Et chaque premier-né dans nos maisons appartient au Seigneur, mais tous nos enfants lui appartiennent. Ils sont sanctifiés, mis à part pour lui. Ils sont saints. Et il faut qu'ils sachent pourquoi. Il faut qu'ils sachent ce que Dieu a fait pour chacun d'eux, comme pour toute la maison, comme pour toute l'assemblée. C'est un enseignement continu qui donne la vraie valeur à la consécration. Et puis, nous pouvons continuer encore le passage dans le livre du Deutéronome que nous avons déjà évoqué ce matin. Il y avait là toutes les ordonnances, tous les commandements de l'Éternel qui étaient placés sur les poteaux, sur le linteau de la porte, sur les poteaux en particulier, des portes de chaque maison. Il y avait l'enseignement, les commandements, les statuts, tout ce que l'Éternel avait prescrit pour son peuple. Alors les enfants interrogent, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Deutéronome 6, verset 20. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a commandés, alors tu diras à ton fils,
Alors qu'est-ce qu'il fallait dire aux enfants? Qu'est-ce qu'il fallait dire aux fils? Il fallait dire, mais Dieu nous a placés sous une loi, il faut l'obéir, parce que c'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, il faut que nous nous soumettions à tous ses commandements, sinon nous sommes passibles de mort. C'était cela qu'il fallait dire aux enfants? Pas du tout. Il fallait leur dire, nous observons tous ces commandements et toutes ces ordonnances parce que nous avons été délivrés du pays d'Égypte, parce que l'Éternel nous a acquis pour lui. Et c'est ce que nous voyons au verset 21. Nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a opéré devant nos yeux des signes et des prodiges grands et accablants sur l'Égypte, sur le Pharaon et sur toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères pour nous le donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien toujours, pour nous conserver en vie comme il paraît aujourd'hui. Et ce sera notre justice, que nous prenions garde à pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a commandé. Voilà les pains sans levain. Comme notre frère l'a dit tout à l'heure, nous ne marchons pas dans des chemins de justice. Ce sera notre justice. Nous ne marchons pas dans ces chemins-là pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, pour essayer de lui être agréable, tant bien que mal, pour obtenir sa faveur. Mais non, c'est parce que nous sommes dans sa faveur. C'est parce que la faveur dans laquelle nous sommes nous conduit à obéir, nous conduit à nous soumettre à la parole de Dieu. Elle est écrite sur les portes parce que le sang y est déjà. Elle est par-dessus le sang, si nous pouvons dire. Nous avons été rachetés d'Égypte à main forte. Nous appartenons à l'Éternel. Et c'est de tout notre cœur que nous pouvons obéir à celui qui nous a rachetés. Et c'est notre justice de pouvoir ainsi manifester ce qu'il a placé dans nos cœurs. C'est justice de lui rendre cela, d'obéir à un tel Dieu, à celui qui nous a sauvés. Et puis, pour terminer, donc, nous avons fait allusion tout à l'heure à ce qui s'est passé lors du passage du Jourdain en Josué 4. Et alors là aussi les enfants parlent. Chapitre 4, verset 6. Lorsque dans l'avenir vos fils demanderont disant « Que signifient pour vous ces pierres ?» Alors vous leur direz que les eaux du Jourdain furent coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa dans le Jourdain, les eaux du Jourdain furent coupées. Et ces pierres serviront de mémorial aux fils d'Israël pour toujours. Un mémorial. Un mémorial de la traversée du Jourdain. Le fleuve de la mort, nous l'avons rappelé tout à l'heure, la mort de Christ. Nous sommes morts avec lui. Les pierres sont au fond du Jourdain, comme nous le voyons au verset 9e. Et il y a des pierres dressées sur l'autre rive, verset 7, et nous les retrouvons à la fin du chapitre, pour mémorial. Un mémorial de la mort de Christ. Les enfants interrogeaient, est-ce qu'ils interrogent les parents, les enfants au sujet du mémorial, au sujet de ce mémorial qui est là? Est-ce qu'ils en comprennent toute la signification? Non seulement la mort de Christ pour nous, mais notre mort avec Christ, la traversée du Jourdain, notre entrée dans le pays céleste, là où nous pouvons célébrer vraiment la fête, là où nous pouvons vivre pour Dieu, pour sa gloire, connaître un Christ glorifié, un agneau immolé, mais glorifié, couronné de gloire. Voilà dans quel esprit nous avons à célébrer la fête et à célébrer le mémorial. Nos enfants peuvent nous interroger, il faut savoir leur répondre, mais pour leur répondre, il faut y être, il faut être là, il faut célébrer le mémorial. Tant de parents restent en arrière encore, hélas. Et puis, pour terminer, alors, au verset 22 de ce même chapitre, verset 21. Et il parla aux fils d'Israël, disant, « Lorsque dans l'avenir vos fils interrogeront leur père, disant, que sont ces pierres ? Vous instruirez vos fils en disant, Israël a passé ce Jourdain à sec, parce que l'Éternel votre Dieu sécha les eaux du Jourdain devant vous, jusqu'à ce que vous eussiez passé comme l'Éternel votre Dieu a fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé, afin que tous les peuples de la terre connussent la main de l'Éternel, qu'elle est forte. » Afin que vous craigniez toujours l'Éternel votre Dieu. Ah, les bonnes questions de ces enfants. Voilà donc, il faut répondre. Les pierres sont là. On interroge. Que sont ces pierres? Oh, c'était pas un monument très visible comme celui qui a été dressé plus tard. C'était, il fallait le chercher. 12 pierres tirées du Jourdain, portées sur une épaule. Cela faisait pas un monument très apparent. Ce que nous célébrons n'a aucune apparence pour le monde. Mais pour nous, cela a une signification profonde. Et pour nos enfants, cela doit avoir la même signification. Que signifie pour vous ces pierres? Mais c'est un mémorial, mais c'est aussi un témoignage. Et alors là, la parole revient en arrière, si nous pouvons dire. Il ne s'agit pas seulement du passage du Jourdain, mais aussi du passage de la mer Rouge. On revient au début, on revient à ce qui s'est passé à la sortie du pays d'Égypte. On revient au commencement pour montrer ce qu'est le commencement, le premier des mois de l'année, le départ de ce pays-là, le rachat du pays d'Égypte, le prix payé, la mer traversée, l'ennemi détruit. Voilà, on est arrivé dans le pays, on célèbre cela auprès du monument. Le monument rappelle toutes ces choses, mais il ne le rappelle pas seulement pour ceux qui sont là. Il le rappelle pour tous les peuples de la terre, pour toutes les nations de la terre, afin qu'ils connaissent la main de l'Éternel, qui elle est forte. Nous annonçons pour toute la terre, pour le monde entier, nous annonçons la mort du Seigneur. Et quand l'apôtre en 1 Corinthiens 11 prononce ce mot, nous annonçons, le verbe est très fort. Dans l'original, c'est nous annonçons contre, et très exactement. C'est un témoignage contre la puissance de l'ennemi, contre la puissance du monde, contre ses séductions, contre tout ce qu'il est. Voilà, nous sommes sortis du monde, nous célébrons celui qui nous en a délivrés et nous célébrons celui qui est mort pour nous délivrer de la puissance de l'ennemi, pour nous délivrer du pays d'Égypte, pour aussi nous introduire dans le bon pays. Un témoignage, nous annonçons la mort de qui ? Du Seigneur, de celui auquel nous sommes soumis, qui a l'autorité sur le monde entier et qui l'exercera bientôt. C'est celui devant qui nous ployons le genou maintenant et le monde entier le ployera un jour. Nous annonçons cela lorsque nous célébrons la scène. La mort de Christ, c'est aussi sa victoire, c'est aussi sa suprématie. Il a été établi chef sur toute chose et il le montrera au monde entier. Et le monde peut le savoir maintenant lorsque nous annonçons sa mort.
Parce qu'il est un peu différent des autres, c'est Exode 13, verset 8, sur le même sujet. « Et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Et cela te sera un signe sur la main et un mémorial entre tes yeux. » Ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Nous rejoignons là ce que dit l'apôtre en Galates 2, verset 20. Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Il faut que chacun individuellement puisse le dire lui-même à son propre Fils. Il faut que nous soyons engagés derrière le Seigneur, que nous l'ayons accepté personnellement dans chacun de nos cœurs. Et alors, collectivement, ce sera également la même joie pour tous. Mais il faut commencer par cette réponse individuelle. Le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi. Et là encore, il est parlé du mémorial, en effet, le souvenir de ces choses, souvenir précieux entre tous.
Douze pierres avaient été dressées de l'autre côté du Jourdain. Donc Dieu voyait... Il avait toujours en vue les 12 tribus, l'unité du peuple d'Israël. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 10, passage que nous connaissons tous, verset 17, « Car nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons tous à un seul et même pain. » L'unité de l'Église. Chantons quelquefois que l'unité de ton Église est belle. Seigneur Jésus, qu'elle plaît à tes yeux. Dans ton amour, tu t'es livré pour elle. Tu veux la voir avec toi dans les cieux. Si nous insistons tant sur ce qu'est l'Église du Seigneur sur la terre, souvenons-nous tous ensemble que ce que le Seigneur a de plus cher ici-bas, c'est son Église, c'est son épouse, celle pour laquelle il a donné sa vie, celle qu'il va bientôt se présenter à lui-même, selon Éphésiens 5. Mais nous lirons un verset aussi dans 1 Timothée, chapitre 3. Que dit l'apôtre ici ? Le chapitre 3, verset 15, au milieu du verset. Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. La maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Souvenons-nous de cette glorieuse vérité.
côté de la communion que nous voyons dans la Pâque, qui se trouve dans le fait de manger l'agneau. C'est le côté de la participation au sacrifice, côté que nous trouvons justement en 1 Corinthiens 10. Pain que nous rompons et qui parle de la communion du corps de Christ. Et puis il y a le côté, alors, verset 16, le premier jour vous aurez une sainte convocation. Le septième jour, une sainte convocation. C'est davantage ici la communion les uns avec les autres qui est envisagée. Et combien tous ces différents côtés viennent ainsi se compléter. À la fois ce qui s'adresse, on l'a vu avec combien de force, personnellement, individuellement, à chacun, et puis cette part qui nous est donnée en commun.
Nous voyons dans la fin du chapitre deux choses. Aucun étranger ne mangera de la Pâque. Il fallait être du peuple d'Israël. Mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tout le circoncira. Alors il en mangera. L'esclave, le domestique, faisait partie de la maison. Il pouvait participer à la Pâque. Mais il fallait qu'il soit circoncis. Il fallait qu'il y ait eu en lui ce dépouillement du corps de la chair, spirituellement parlant. C'est dans la circoncision du Christ que nous pouvons ainsi participer au mémorial. C'est dans cet esprit et dans cette attitude, c'est tous ceux qui, esclaves ou hommes libres, s'ils sont maintenant tous des rachetés de Christ, qui peuvent ainsi avoir part à ce mémorial dans l'esprit qui convient selon ce rite de la circoncision. Et quant à l'étranger, d'une manière générale, il est d'abord dit au verset 43, « Aucun étranger n'en mangera. » Mais voilà que verset 48, « Si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'Israélite de naissance, mais aucun incirconcis n'en mangera. » Il y aura une même loi pour l'Israélite de naissance et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Voilà, aucun étranger ne faisait partie du peuple de Dieu. Il en était exclu. Le bénéfice de la Pâque était pour un peuple racheté, pour le peuple de l'Éternel. Mais alors, il n'y a pas de grâce pour l'étranger. Ah, si, dit Dieu, s'il veut, s'il séjourne chez toi, s'il veut faire la Pâque, il y a là une provision de grâce pour l'étranger, et nous étions tels. C'est pour nous qu'il est écrit cela. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Pas droit de cité en Israël pour aucun d'entre nous. Sans Dieu dans le monde, voilà ce que nous étions. Encore une fois, la Pâque devrait avoir pour nous symboliquement une résonance dans nos cœurs beaucoup plus profonde encore que dans le cœur des fils d'Israël qui étaient du peuple de Dieu de par naissance. Mais il fallait qu'ils soient circoncis et il fallait qu'ils se soumettent à toute l'ordonnance de la Pâque. Eh bien, l'étranger, il y a une provision pour lui. S'il séjourne chez toi et s'il veut faire la Pâque, si son cœur désire connaître ce grand Dieu d'Israël qui a sauvé son peuple de l'Égypte, alors il peut faire la Pâque, mais à condition d'être circoncis. Voilà donc maintenant la grâce de Dieu qui est parvenue jusqu'aux nations. La grâce de Dieu, le sang de Christ valable pour tous, et pour tous ceux qui sont circoncis désormais, pour tous ceux qui sont dans l'attitude qui convient, il y a possibilité de participer à ce repas du souvenir. Il y a possibilité ainsi de pouvoir d'abord s'approcher de Dieu librement. Le sang est là, le sang de Jésus qui nous a ouvert un chemin nouveau, un chemin même que Israël n'avait pas connu, le chemin du sanctuaire, du lieu saint. Israël n'avait pas connu cela et nous le connaissons. Nous sommes donc des privilégiés. Nous étions pourtant des étrangers, des misérables. Mais voilà que par le sang de Jésus, par un chemin nouveau, nous avons accès jusqu'au dedans du voile. Nous avons à travers ce voile vision sur un Christ glorifié, sur un agneau immolé. Alors qu'Israël ne pouvait que se souvenir de la délivrance du pays d'Égypte. Nous connaissons, nous, le libérateur, le sauveur. Nous l'avons devant nos yeux, les yeux de notre foi. Eh bien,
mesurons le privilège qui nous a été donné ainsi, nous qui n'avions aucun droit d'être là maintenant, au-delà d'Israël, au-dessus de lui, dans le sanctuaire même, pour comme rappeler ce que la Pâque a été sacrifiée et pour ainsi adorer celui qui s'est sacrifié pour nous.